Bonjour à tous. Nous allons lire un seul verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, un verset que nous connaissons, au chapitre 3, et c'est le verset 11. Et Coëlette, comme on l'appelle, l'Ecclésiaste, dit ceci: il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur, dans leur cœur ou dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, en tant qu'être humain, c'est difficile de concevoir cette dimension, cette notion d'éternité. Nous vivons dans un monde et tout ce qui nous entoure est limité par le temps. Les choses que nous utilisons vieillissent, s'usent et finalement sont destinées au rebut, à être détruites. Prenons par exemple la voiture qui sort de la fabrique, elle est neuve dans un premier temps, mais elle connaît une usure mécanique de façon irréversible. Alors après, elle est destinée à la casse, elle est destinée à la démolition. La vie qui nous entoure, végétale ou animale, connaît les différentes étapes de naissance, croissance, dégénérescence, et puis mort. Prenons par exemple un joli bouquet de fleurs qu'on vous offre. Mais dans un premier temps, ça c'est étincelant, c'est coloré, ça, c'est odoriférant, ça sent bon. Mais bien vite, ces fleurs vont faner, vont se flétrir, vont sécher, et puis vont être destinées à être jetées au compost où elles vont se décomposer. Même chose pour nos animaux de compagnie. On les aime bien. Ils naissent, ils grandissent, mais ils déclinent et ils finissent aussi par mourir. Même chose encore pour le corps humain. Notre corps, eh bien, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourrons. Même pour notre galaxie, c'est la même chose. Le soleil, les étoiles, la Terre évoluent et tout cela finira par disparaître. L'environnement dans lequel nous vivons et les limites du temps que nous connaissons autour de nous constituent un frein à notre compréhension de l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité ? Qu'est-ce que l'éternité ? Est-ce qu'on peut vraiment comprendre pleinement cette notion d'éternité finalement ? Le dictionnaire donne comme définition de l'éternité durée sans commencement ni fin. Quelque chose qui n'a ni début, ni borne finale. L'homme a structuré, a organisé le temps, en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes. Et tout passe, déferle, s'égrène de façon inexorable. Et un écrivain du XVIIe siècle, Axel Oxenstein, écrit dans sa réflexion sur l'éternité ceci: l'éternité est un océan dans lequel le temps se précipite avec une rapidité inconcevable. L'éternité est un océan dans lequel le temps se précipite avec une rapidité inconcevable. Le temps, finalement, n'est qu'une courte parenthèse dans l'éternité. Alors, dans l'éternité, il n'y aura plus de notion du temps. La notion du temps disparaît. La contrainte temporelle n'est plus. L'éternité, finalement, c'est un présent éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas d'hier et il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Avant la création du monde, c'est l'éternité. Lors de la destruction de la création, c'est encore l'éternité. L'être humain est confiné dans l'espace et dans le temps. Il naît, comme on l'a vu, il vit et il meurt. Seul Dieu est en dehors, est au-dessus du temps. Pourquoi ? Parce qu'il est éternel. C'est d'ailleurs un des titres que porte Dieu, l'éternel. Il n'a pas été créé, ni imaginé, et il ne connaîtra pas de mort ni de fin. David écrit au psaume 90, verset 2, on ne va pas chercher dans la Bible, je vais simplement citer les références. David donc écrit au psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent créées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu en dehors du temps. Dieu se situe dans un présent éternel. Et puis, on se souvient aussi le titre par lequel Dieu s'est révélé à Moïse à travers le buisson ardent, en Exode 3, verset 13, où Dieu s'est fait connaître à Moïse avant de l'envoyer libérer son peuple en Égypte. En ces termes, « Je suis celui... » Ben oui, « Je suis celui qui suis, Dieu éternellement présent, en dehors du temps. » Et puis Jean, dans l'Apocalypse, au verset 20, au chapitre 22, pardon, verset 13, écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout d'abord, Dieu a mis dans le cœur de l'homme naturel, dans le cœur de l'homme irrégénéré, dans le cœur de l'homme qui vit sans Dieu, sans foi, cette pensée de l'éternité. Et qu'est-ce que cela implique pour l'homme naturel, pour l'homme irrégénéré ? Quelle est la signification de cette pensée que Dieu a placée dans le cœur de l'homme irrégénéré ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que l'être humain, l'homme ou la femme, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa race, quelle que soit l'époque à laquelle il vit, quel que soit l'endroit où il se trouve, à un certain moment dans sa vie, il prend conscience de sa finitude. Il considère un jour sa finitude. Il considère que finalement, que sa vie n'est qu'une infime particule, qu'un grain de poussière à l'échelle de l'éternité. Parce que Dieu l'amène à réfléchir à la dimension de l'éternité. Parce que Dieu place dans son cœur cette pensée de l'éternité. Alors l'homme réalise, l'homme commence à réfléchir. Il y a un autre auteur, c'était un imprimeur français qui vivait au XIXe siècle, Joseph Mabir, qui est célèbre pour ses citations, qui a dit « La vie n'est qu'un point entre deux éternités, mais quelque chose d'insignifiant. » Et la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme est là pour lui donner à réfléchir sur l'aspect furtif, éphémère, de la vie des jours de l'homme sur la terre, finalement, et à l'échelle de l'éternité. L'homme réalise, un jour ou l'autre, que la vie passe avec fracas, et qu'il n'est pas différent des autres. Il vieillit comme tout le monde, il tombe malade comme tout le monde, il meurt comme tout le monde. Et après ? L'être humain, à un moment ou à un autre dans sa vie, commence à se poser les grandes questions existentielles, ou les grandes questions métaphysiques qu'on connaît, hein. Mais d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, et où est-ce que je vais ? Finalement, la pensée de l'éternité, c'est une perche que Dieu tend à l'homme pour son salut éternel. L'homme sait au fond de lui-même qu'après sa mort, il y a quelque chose. Il y a un au-delà, que ça continue. Et malheureusement, c'est étonnant parce que pour beaucoup de personnes, malgré cette considération, eh bien, beaucoup de personnes n'essayent pas de chercher à comprendre, ignorent, n'en parlent pas, n'y pensent pas, comme si l'homme allait passer l'éternité sur la terre finalement, comme si l'homme n'allait jamais quitter la terre. L'homme soit fuit cette pensée en rentrant dans une vie d'activisme et matérialiste, ou bien alors l'homme essaye de se sécuriser par toutes sortes de croyances religieuses, déjà présentes dès les temps anciens. On se souvient des pharaons d'Égypte qui étaient inhumés dans les pyramides avec leurs biens, avec leurs trésors et même avec du blé, pour qu'ils ne manquent de rien, espérant ne manquer de rien dans la vie, dans l'au-delà. La pensée de l'éternité. Dans le plan de Dieu, nous avons été créés au départ pour vivre éternellement. C'était dans la pensée de Dieu, c'était dans les desseins de Dieu, c'était dans les plans divins que nous puissions vivre pour toujours. Seulement, comme nous le savons, le péché a tout gâché. Le péché, par son introduction, a engendré, a entraîné, a conçu la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra. On connaît tous ces versets qui sont là pour établir le triste constat lié à l'introduction du péché dans le monde. C'est donc en vue du salut éternel de l'homme que Dieu a mis dans son cœur, comme je le disais il y a un instant, la pensée de l'éternité. Et cette pensée doit éveiller et interpeller sa conscience pour qu'il trouve finalement réponse à ses questions. Cependant, l'homme ne peut pas espérer bénéficier de la vie éternelle par le biais d'une croyance ou d'une religion quelconque. C'est un leurre. Seul Jésus, et Jésus seul, peut lui donner la vie éternelle. Et on se souvient bien de ces paroles de l'évangéliste Jean dans l'évangile au chapitre 17, verset 3, qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ nous permet donc de rentrer dans cette dimension d'éternité. Alors, connaître Jésus, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Connaître Jésus, ça ne veut pas dire le connaître de façon intellectuelle ou bien de façon théorique, bien évidemment. Mais connaître Jésus, ça veut dire que nous sommes invités à rentrer dans une intimité profonde, dans une relation intime avec lui. Et c'est cela, rentrer dans l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme naturel, de l'homme irrégénéré, cette pensée de l'éternité pour lui ouvrir la porte du salut. Mais Dieu a aussi mis dans la pensée des croyants, dans le cœur des croyants, la pensée de l'éternité. Chrétien, est-ce qu'il ne vous arrive jamais de penser à l'éternité, et pas seulement qu'aux enterrements? Est-ce qu'il ne nous arrive jamais de penser, à l'éternité? Et pourquoi est-ce qu'on pense à l'éternité? Quelles sont les implications de la pensée de l'éternité dans le cœur du croyant? Deuxièmement, qu'est-ce que le fait de penser à l'éternité suscite en nous? Eh bien, la pensée de l'éternité dans le cœur du croyant nous amène à considérer notre destinée nouvelle qui est éternelle. Notre destinée est désormais éternelle. Et elle nous amène aussi à considérer que nos préoccupations, désormais, elles devraient être tournées, centrées sur cette même éternité, sur cette même vie éternelle. Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans le cœur du croyant, la pensée de l'éternité. Pour qu'il considère désormais sa nouvelle destinée qui est devenue éternelle et pour que ses préoccupations désormais se tournent davantage sur la vie éternelle. Comme finalement, la pensée de l'éternité était la préoccupation d'Abraham. On se souvient dans Hébreux chapitre 11, versets 9 et 10, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, « C'est par la foi qu'il, donc Abraham, vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Donc Abraham avait reçu de Dieu la terre promise, le pays de Canaan, mais il s'y est installé sous des tentes, se considérant comme étranger. C'est ce qui fera dire d'ailleurs à l'Épître aux Hébreux ou dans la première Épître de Pierre, « Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. » Abraham avait en vue, et c'était ça sa préoccupation éternelle, malgré la jouissance de la terre que Dieu lui avait accordée, la cité céleste. Abraham avait en vue la cité céleste. Abraham avait en vue l'éternité. La pensée de l'éternité est là afin de nous motiver à nous préoccuper désormais de ces réalités éternelles. L'éternité était aussi la préoccupation de David. Et il écrit dans le psaume 139, verset 24, ceci, « Prière à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin, sur la voie de l'éternité. » Pour David, sa préoccupation était une préoccupation centrée sur l'éternité. Et puis, même chose pour Jésus. Ses préoccupations étaient aussi centrées sur l'éternité. Quand il dit en Matthieu 6, verset 20, « Ne vous amassez pas des trésors où la rouille et la teigne gagnent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors qui sont dans les cieux. Amassez-vous des trésors célestes. » Les préoccupations éternelles de Jésus. Et puis Jésus dira aussi, par ailleurs, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et puis l'apôtre Paul aussi avait ses préoccupations, ses mêmes préoccupations, centrées sur l'éternité. En Colossiens chapitre 3, verset 2, il nous encourage à quoi ? Eh bien, à affectionner les choses d'en haut. Et non pas celles qui sont sur la terre. Et quelles sont les choses qui sont en haut? Il écrit encore en 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles, elles sont éternelles. » L'apôtre Paul nous encourage à considérer, à regarder, à rechercher les choses d'en haut, les choses visibles. Mais quelles sont ces choses visibles qui sont éternelles? Quelles sont-elles? Conclusion. Pouvons-nous dire que la pensée de l'éternité est celle qui conduit notre quotidien, est celle qui dirige notre quotidien? Sommes-nous à l'écoute de la parole de Dieu, de la Bible, et vivons, est-ce que nous la vivons? Est-ce que nous entretenons notre vie de prière, de relation intime avec Dieu? Est-ce que nous recherchons à vivre par la foi? Est-ce que nous recherchons la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que nous recherchons à manifester dans nos vies ces vertus intemporelles que sont l'amour notamment, dont Paul dit que l'amour prendra jamais fin? Mais il y a aussi la paix, la joie, la patience, la bonté, etc. Toutes ces choses invisibles et éternelles, toutes ces choses d'en haut, tous ces trésors célestes, c'est cela? Est-ce que nous réalisons que nos actions, nos décisions, nos pensées, nos choix, notre vie est un investissement pour l'éternité, sont un investissement, pardon, pour la vie éternelle? Et puis je termine par cette question. Est-ce que je vis sur la terre dans la perspective de l'éternité? Que Dieu nous donne de réfléchir à cette notion d'éternité. Il va faire bon. Il va faire bon dans les jours à venir. C'est le printemps. Mais cependant, ne perdons pas de vue cette dimension et cette notion d'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité.